Tu as pêché oumpa oumpa bacajou.
Dur de la feuille.
Baobam, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Celui qui naît doit apprendre à vivre et à penser comme un arbre. Bienvenue dans ce 12e épisode de la série La Clé des Champs, la série pour se nourrir de la magie du vivant face à des climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous clôturons cette première saison de La Clé des Champs par une halte en terre des Yanomami et du manioc pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes, avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Une pluie chaude se déverse sur nous depuis plusieurs heures. Dans ce rideau épais, certaines formes se distinguent à mesure que nous avançons sur l'Orénoque, le principal fleuve du Venezuela. Nous avons quitté depuis peu les îles paradisiaques au nord du pays, laissant Margarita, l'île aux perles, s'évaporer lentement de nos pensées, découvrant ainsi un delta au pourtour indistinct, dans une mer des Caraïbes apaisée. Pourtant, la pluie continue de s'effondrer à la surface du fleuve, battant le reflet des arbres embrumés. Les couleurs sont uniformes de bleu et de vert, lorsque momentanément des pointes de rose, de bleu électrique ou de rouge encerclées de noir ponctuent notre vision. Nul doute que dauphins roses, martins pêcheurs et haras voltige autour de nous, curieux de cette embarcation qui s'engouffre timidement dans cet amas de lianes et de branches tortueuses. Ne nous laissons pas berner par ces doux clapotis. Capybara, caïman, anaconda, puma et jaguar sont alertés de notre présence, guettant assidûment la route sinueuse que nous empruntons. Rien n'aurait laissé présager un tel paysage quand nous étions aux abords des côtes, abruptes et rocheuses, plutôt dans la journée. De forêts d'aubépines et cactus habitées d'ibis rouges, de hérons verts et d'aigrettes, nous sommes désormais dans une flore tropicale. La surprise sera d'autant plus marquée une fois parvenue aux Andes, à l'ouest, où la cordillère de Mérida abrite des vallées fertiles peuplées de nombreuses tribus amérindiennes. Mais avant cela, nous devrons nous frayer un chemin dans les hautes herbes des plaines du Llanos, entre bétail et savane arborée. De là, nous pourrons observer une des plus belles curiosités de la région, les toupailles, sortes de fragments montagneux coupés si franchement sur ses faces qu'ils semblent disposés par un géant voulant jouer au Lego le temps d'une journée. Et pourtant, ces roches sont ancrées sur ce lopin de terre depuis plusieurs millions d'années, bien avant la dérive des continents. Un lien ancien, encore visible, avec le premier continent de notre planète. Avec une température moyenne de 28 degrés et des pluies plus de 25 jours par mois d'avril à novembre, le Venezuela illustre un climat tropical qui, combiné à une topographie contrastée, est fertile à une diversité impressionnante d'habitats et d'êtres vivants. Entre sommets et lancées des Andes, jungles amazoniennes, montagnes tabulaires mythiques, plaines de savanes arborées et littorales, il n'est pas étonnant que ce réservoir de biodiversité soit reconnu à travers le monde comme une des plus importantes zones de nidification. Les terres agricoles de ce pays semblent donc en parfaite position afin de constituer une bonne ressource pour le territoire. Pourtant, depuis le XVe siècle, l'agriculture a grandement perdu de son importance dans les activités économiques du pays. Le pétrole, l'or noir, avaient jusque dans les années 2000, au même titre que les produits miniers, toute l'attention du gouvernement, ouvrant des brèches dans la forêt et utilisant la main-d'œuvre ouvrière dans des chantiers d'exploitation. Le pays importait alors la plupart de ses produits alimentaires, principalement de Colombie et des États-Unis. Depuis 1999 et la révolution bolivarienne du président Hugo Chavez, l'agriculture a une priorité un peu plus élevée. Les réformes agricoles qui ont suivi se sont orientées dans la même direction, en redistribuant, parfois avec une sévère opposition des bénéficiaires de l'ancien système, des terres, publiques ou privées, et réputées être improductives ou détenues illégalement, en les restituant à des familles paysannes sans terre. Au total, d'après les autorités locales et les associations paysannes, depuis les années 2000, plus de 3 millions d'hectares ont été redistribués à quelque 200 000 familles paysannes. Parmi les plus grosses opérations d'expropriation, on retient celle du domaine El Frio, sur 63 000 hectares dont les propriétaires états-uniens n'ont pu prouver leur acquisition par les voies légales. Au gré des années à promouvoir l'agriculture et à engager des expertises à travers le monde pour gagner en compétences agricoles, le Venezuela est désormais autosuffisant pour la culture de ses deux principales céréales, que sont le riz et le maïs. Demeurent des problématiques financières sur les fonds alloués aux nouveaux agriculteurs pour la gestion quotidienne de leur exploitation, débat rejoignant celui prenant cours dans divers pays, dont la France. Afin de pallier à ce manque, le peuple vénézuélien s'organise. Ainsi, le mouvement latino-américain Campesino a Campesino vise depuis plus de 30 ans à mettre en réseau de nombreuses communautés paysannes de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud de sorte à échanger les bonnes pratiques, à mettre en commun matériel et graines, ainsi qu'à organiser des mobilisations en faveur de l'agriculture paysanne et du respect des paysans en milieu rural. Représentés localement au Venezuela par Via Campesina, les paysans vénézuéliens tentent de créer une économie locale durable, basée sur le travail agricole respectueux des droits humains et environnementaux. Et ce, en faisant toujours face à un embargo des États-Unis sur des produits essentiels comme les produits pharmaceutiques. Leur lutte converge avec celle des tribus amérindiennes, peuple animiste vivant de pêche, chasse et culture dans la forêt amazonienne ou ses proches abords. Depuis plusieurs décennies, ces derniers individus du pays se définissant par le vivant qui les entoure, se font chasser des écosystèmes dont ils vivent et auxquels ils contribuent, voire se font tuer, par des exploitants toujours de plus en plus puissants et organisés. De nombreux ouvrages, publications et œuvres artistiques tentent de mettre des visages humains sur les atrocités perpétrées sur la forêt. En effet, les peuples ayant vécu à son contact depuis des milliers d'années, ont une science de terrain incomparable avec quelques organismes de recherche. De leurs rituels associant médecine traditionnelle et croyances animistes, connectés aux êtres de la forêt, jusqu'aux pratiques de chasse et d'agriculture, leurs savoirs sont uniques et disparaîtront avec la forêt, sans l'arrêt de la folie humaine. Parmi les tribus présentes au Venezuela, on retrouve les Yanomami, la plus grande tribu amérindienne. Les Yanomami vivent dans de grands logements communautaires circulaires, appelés chabonos. Construits dans des clairières en pleine jungle, les chabonos traditionnels sont fabriqués de feuilles de palmier, de chaume ou de bois. Ils peuvent être de forme conique ou rectangulaire et entourent un espace central ouvert. Cette zone est utilisée pour des activités telles que les rituels, les fêtes et les jeux. Certains chabonos peuvent abriter jusqu'à 400 personnes, mais sont souvent moins grands. Chaque famille possède son propre foyer, dans la partie couverte périphérique. Les membres y dorment dans des hamacs disposés en bandoulière près du feu. Après quelques années, quand la charpente commence à pourrir que le gibier commence à manquer sur le territoire et que les jardins s'épuisent ou sont envahis par la forêt qui reprend ses droits, le village déménage. Sur une zone d'environ 10 km autour de leur village, les Yanomami se nourrissent de la chasse, de la pêche, de la cueillette et de l'agriculture itinérante. Êtes-vous prêts pour notre truc et astuce en sortie de champ? Agriculture utilisée dans plusieurs pays à travers le monde par des petites tribus, les Yanomami se distinguent de tribus comme au Cameroun ou en Guyane grâce à des pratiques n'occasionnant aucun dégât sur le long terme à l'écosystème forestier. Leur agriculture itinérante est basée sur la technique du brûlis. Attention, le brûlis est souvent confondu, dans sa technique, avec l'éco-buage, dont le principe de brûlage est quasiment identique à un détail vital près. Alors que l'éco-buage soumet la croûte superficielle du sol, racines comprises, à l'épreuve du feu, après arrachage et séchage, le brûlis, quant à lui, soumet au feu seulement la partie aérienne de la végétation, après séchage précédé d'un éventuel débroussaillement. Les Yanomami pratiquent ainsi l'agriculture sur brûlis. Cette activité essentiellement masculine fournit plus de 75% des calories de leur alimentation. Chaque communauté ouvre chaque année entre 3 et 6 hectares de nouvelles cultures sur de très petites parcelles et qui serviront pendant 2 ans maximum avant d'être abandonnées à la régénération naturelle, comme le manioc et les cucurbitacées. On les installe en creusant de fins sillons entre les restes de plantes carbonisées en surface. Si c'est en zone arborée, on ne coupe pas les arbres et le brûlis serpente entre les géants verts de la forêt pour ne pas lui occasionner de blessures, car rappelons-le, les Yanomami considèrent l'arbre, de même que les autres êtres vivants, comme ayant une âme qu'il faut respecter. Sur le plan scientifique, les espèces déjà en place spontanément alimentent la diversité microbienne dans le sol, le structurent et complètent l'amendement en matière organique. Bien que fondée sur le défrichement et le brûlis, l'agriculture Yanomami ne produit pas d'effet à long terme sur l'environnement, d'après plusieurs études scientifiques, car ces jardins sont de petite taille et très espacés. On observe donc peu d'érosion, et les arbres environnants trouvent là des conditions idéales pour se développer, car ils peuvent étendre leur canopée. Tout comme le Brésil, le Venezuela abrite une partie non négligeable de la forêt amazonienne. Et tout comme le Brésil, la destruction de ce giga-écosystème demeure une menace quotidienne des fragiles équilibres entre les différents organismes qui le composent. Des militants font barrage contre les exploitants miniers, pétroliers et d'agriculture intensive. Ils tentent ainsi de préserver à minima ce qui apparaît comme vital pour les populations locales, mais également pour l'ensemble de l'humanité, étant donné le déséquilibre sans précédent que représenterait la transformation déjà amorcée de la forêt amazonienne en désert. Les défenseurs des terres anciennes, de ce qu'on appelle peut-être facilement Nouveau Monde, chantent pour nous. Tendons un instant cette feuille durcie par le froid à ces voix du tréfonds de la forêt. La banane plantain est presque l'autre pain de cette région du monde. On la prépare bouillie, à la vapeur, frite, en gratin, en beignet. Elle peut avoir sa place à tous les repas de la journée. Ce fruit, premier fruit mondialement le plus consommé, est sujet à de nombreuses controverses entre les producteurs à travers le monde. Le Venezuela, comme trois autres pays latino-américains, produit des bananes revendues par les États-Unis. Les bananes Cavendish sont les bananes qui dominent les étals. L'uniformisation du commerce autour de cette unique variété a sensiblement fragilisé cette culture face aux maladies. Ainsi, dans la culture locale vénézuélienne, ce n'est pas la Cavendish que l'on consomme, mais quelques dizaines de variétés de la banane plantain, cette banane un peu verdâtre et plus concentrée en amidon. Les tarradas de queso sont des galettes sucrées salées, composées simplement de banane plantain frites avec du fromage. On peut retrouver ce mets en accompagnement de plats ou bien comme gourmandise de l'après-midi. À vos outils pour la recette du jour.
Voici les tarradas de queso pour 4 personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 4 bananes plantain mûres, de l'huile végétale de friture, un filet de rhum épicé et une généreuse boule de fromage type mozzarella, ou si vous en avez, du fromage vénézuélien queso de mano. Passons à la préparation. Vous vous méprenez si vous pensiez laisser de côté ces délicates bananes à la peau épaisse. D'un geste osé mais efficace, épluchez-les avant de les trancher diagonalement. Ces tranches ne doivent pas être trop fines ou trop épaisses. Un fin géomètre prendrait sa règle graduée, dressée pour décompter les 3 à 4 cm. Qui sépare chaque tronçon. Votre compas dans l'œil vous en dispensera. Faites chauffer promptement un grand bain d'huile dans une poêle. Vos morceaux de fruits gourmands vont désormais se faire frire sur les deux faces jusqu'à ce que cette teinte dorée, aguicheuse, les habille. Arrosez-les d'un filet de rhum pour saisir ces épices dans le plus simple appareil. Traitées avec tant de douceur, vos bananes seront goûtues, mais point encore prêtes à garnir votre plat. Dans une assiette creuse, déposez 4 à 5 morceaux et, avec une brutalité contrôlée, aplatissez-les pour former une petite galette épaisse. Afin de garder cette cohésion qui leur ravit si bien, déposez ces galettes dans une poêle à feu doux, avant de rajouter en leur centre un morceau de fromage frais de votre choix. Tandis que la préparation sera encore chaude, enfourchez un des morceaux fumants pour le laisser fondre goulûment dans votre bouche.
Ainsi se termine cette première saison à travers chants. La semaine prochaine, le vivant cherche à nous susurrer à l'oreille dans une nouvelle feuille de chou.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.